À rencontre spirituelle aujourd'hui, il est question de la vénérable Thérèse Valsepantellini, une salésienne. Qu'est-ce que c'est qu'une salésienne? Les salésiennes de Don Bosco, c'est une congrégation de sœurs à l'esprit contemplatif au fond comme Don Bosco, mais très très active et surtout très joyeuse. Elles ont une joie particulière dans cette congrégation qui leur vient de Don Bosco, qui leur vient de Saint-François de Sales, dont elle porte le nom. Hein, salésienne, ça vient de François de Sales. Elle est morte à 29 ans seulement, en 1907, et son prénom, Thérèse, nous laisse voir déjà, et je vous assure, c'est fantastique, nous fait déjà voir l'esprit de Thérèse de Lisieux décédée quelques années, 10 ans plus tôt. Je suis tombé, on pourrait dire, un peu amoureux de cette sœur fantastique extraordinaire qui est Thérèse Valsé, V-A-L-S-E. On peut l'épeler avec un accent grave ou un accent aigu, ça dépend des livres. C'était le nom de son père, Valsé, Valsé Pantellini, mais j'oublierai le Pantellini. Ça fait un peu long, les noms doubles sont longs, n'est-ce pas? Vous en savez quelque chose avec le mien. Oh, justement, au microphone, Raymond Beaugrand Champagne. Alors, cette vénérable Thérèse est née dans un milieu assez aristocratique de Milan. Soyez sans crainte, elle se fait très simple. Vous allez voir, c'est une femme merveilleuse, merveilleuse, même si elle est née dans un milieu aristocratique à Milan. Le 18 octobre 1878, elle a la chance de grandir libre dans un milieu où on ne l'écrase pas par des règlements. Elle est heureuse. C'est une très belle famille. Il faut dire que c'est une famille profondément chrétienne. Son père lui communique d'ailleurs à elle et à son frère qui s'appelle Italo. C'est un nom qu'on trouve en Italie assez souvent pour les garçons, autrefois en tout cas Italo. Et elle avait une petite sœur de 7 ans plus jeune aussi qui s'appelait Joséphine. Alors leur père leur a communiqué une large vision, disons, de la vie, avec des riches valeurs humaines et religieuses. C'était un vrai père de famille. C'était un homme cultivé et audacieux. Il avait de belles qualités, hein. Et il savait faire de bonnes affaires dans la finance, les affaires aussi, quoi. Ça lui a permis d'être compté, on pourrait dire, parmi les plus grands entrepreneurs d'Italie. C'est donc une famille riche. Les pauvres, quand même, connaissent bien le grand cœur de M. Valsé, le père de Thérèse, qui travaille avec ténacité, mais qui donne avec une grande générosité. Lui qui a grandi à l'école de son propre père, qui était capable de donner même ses souliers neufs là, qu'il portait aux pieds si quelqu'un les lui demandait. Donc elle avait de qui tenir avec aussi son grand-père. Cette Thérèse italienne, Thérèse, s'aperçoit que son père, si important, non seulement traite très, très simplement les hommes d'affaires, avec beaucoup de gentillesse, mais qu'il reçoit aussi très cordialement ceux qui s'adressent à lui pour lui demander de l'aide. Son cœur est toujours ouvert. Elle regarde son père et elle apprend. D'ailleurs, quand ils sortent ensemble en promenade, Monsieur Valsé Pantellini remplit de monnaie la petite bourse. Vous savez, les petites filles avaient des bourses. Et il lui recommande toujours à sa Thérèse de tout distribuer aux mendiants. À qui il faut donner avec le sourire, dit-il, avec le sourire. Pas avec une espèce d'indifférence, mais avec un attachement. Hein. Est-ce que vous faites ça quand vous donnez dans la rue, là? Sourire à ces gens, leur dire bon courage. Vous pouvez leur dire, gentiment, j'arrive de la messe et puis j'ai prié pour vous, je vous avais vu avant d'entrer. On peut leur parler d'autre chose, du temps qu'il fait. On peut leur dire un mot. Pas longtemps, parce que sans ça, ils perdent de l'argent. Et en eux, dans ces mendiants-là, c'est Jésus qui souffre, elle le voit. Elle est douée d'une intelligence supérieure à son âge. Elle est tellement sympathique et vive que quand elle bavarde, avec lui, surtout avec son père, tous ceux qui assistent à ça sont amusés, ils se taisent pour écouter. Quant à sa mère, Madame Valsé-Pantellini, elle complète son éducation avec une fermeté exigeante, mais une grande bonté. Elle est décidée à faire de son enfant, une espèce d'ensemble de beauté. C'est une très belle fille, hein, Thérèse. Et puis, un ensemble de beauté puis de culture. Hein. Son nom, c'est Madame Joséphine Virgili Valsé-Pantellini. Que de noms longs en Italie et en Espagne. Hein. Elle s'impose pour que Thérèse sache se tenir en société. Hein. C'est comme ça dans ces milieux bourgeois. Au salon, à table, les parents et les amis admirent le comportement distingué puis plein d'aisance de la petite Thérèse, qui cependant, certains jours, quand le renoncement à sa propre volonté devient plutôt pénible, là, et qu'on ne lui laisse passer aucune faute, même des petites fautes légères, elle a des accès de colère, mais qu'elle retient avec peine. Elle a du caractère, comme Thérèse de l'enfant Jésus, comme Thérèse Martin, dont c'est le 100e anniversaire de la mort cette année, je vous le rappelle. On va célébrer ça à Rencontre spirituelle à la fin du mois, le dernier jour du mois, le 30 septembre. Elle voudrait alors se révolter. Elle voudrait exprimer son avis, à tout prix. Elle se bute un peu, et son visage devient tout rouge de dépit, puis peu à peu, elle réussit à se dominer. Comme elle est, comme Thérèse Martin. Et les corrections de ses parents, leurs exemples, son intuition du bien, ben tout ça, ça l'aide à devenir plus souple, hein, puis à obéir. Elle grandit très bien. Ainsi, un peu à la fois, elle acquiert cette maîtrise de soi qui est difficile mais nécessaire dans la vie. Mais dans la famille, il y a une espèce de sérénité générale qui ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que son père, Joseph Valsé, s'est frappé d'une affection cardiaque qui l'immobilise dans un fauteuil. Thérèse en ressent de grandes souffrances, qu'elle est capable de dissimuler, d'accord, et elle prévient les désirs de son père. Elle le fait sourire par des histoires qu'elle lui raconte, elle lui invente mille trouvailles bien sympathiques, mais elle lui lit le journal aussi, puis l'évangile, hein? Elle lui exprime de mille manières la tendresse de son affection. Sa mère, pour éviter qu'elle n'assiste à la tragédie finale, que les médecins ont déclarée imminente, mais sa mère l'envoie en pension à Poggio Imperiale, et 6 jours seulement après son départ, son père meurt. C'est le 27 octobre 1890. Elle a 12 ans. Quelques mois plus tard, elle écrit à son frère Italo, « Désormais, je te le dis sérieusement, je ne pourrai plus être heureuse. » Il est mort, papa, celui qui réjouissait mes jours. Parfois, il me semble que je ne pourrai plus vivre. Alors je lève les yeux vers le ciel et je l'appelle. Papa, mon papa. Oh, je te l'avoue, Italo, quelquefois, je désire la mort. Alors Thérèse devient plus sérieuse et réfléchie, puis elle trouve dans la prière l'aide pour vivre en communion avec son père qui est au ciel. Elle souffre, elle arrive à comprendre et à aimer davantage ses compagnes de pension, à qui elle communique spontanément une grande confiance à la bonté de Dieu, notre Père, qui tient notre main serrée dans la sienne, toujours, dit-elle. Et le jour de sa première communion, à 12 ans et demi, elle ressent un désir profond de se consacrer à Dieu. Vous voyez que toujours la première communion était importante à l'époque. Vous savez qu'on a déjà demandé à des athées, des agnostiques, quel était le plus beau jour de leur vie, et ils ont dit, c'était le jour de ma première communion, eux qui ne croyaient plus du tout, parce qu'ils avaient ressenti au fond de tout leur être une complémentarité, une union. Oh, d'accord, pour eux, mythique, devenu mythique, imaginaire, mais ça a été une sensation fantastique. Pour ceux qui croient, ça demeure une source, et elle décide le programme de sa vie ce jour-là. Elle dit, je veux rester pure, vaincre mon caractère trop violent, devenir douce et aimable, me sacrifier pour tous, vivre caché. C'est le 29 mars 1891 qu'elle écrit ça à 12 ans et demi. La résolution de Thérèse est ferme et tenace. Même si ses enseignantes remarquent qu'elle a un caractère vif, portée à la rancune. On écrit qu'elle est tenace dans ses idées, serait facilement orgueilleuse. Elle sait soutenir bien des luttes contre elle-même pour dominer ses inclinations négatives, et l'on voit qu'elle doit se faire violence pour ne pas répondre mal. Quelque chose un peu de Thérèse de Lisieux, toujours, hein? Et ses compagnes l'aiment beaucoup, elle les traite avec gentillesse, d'ailleurs, elle les traite toutes avec gentillesse, toujours prête à leur faire n'importe quel plaisir, mais elle est proche surtout de celles qui ont besoin d'elle. Puis en 1897, c'est l'année de la mort de Thérèse de Lisieux, la famille Valsi s'établit à Rome, rue Sixtine. Thérèse a 18 ans. L'histoire et la beauté de la ville enchantent Thérèse. Ils avaient passé plusieurs années à Florence entre-temps. Elle est heureuse de vivre au cœur de la chrétienté. Elle a quitté le collège en raison aussi d'un mal de tête persistant. Elle prend des cours particuliers de français, d'allemand, de dessin. Elle s'intéresse aux mathématiques, à l'histoire, à la littérature. Elle joue fort bien du piano, de l'orgue et du violon. Vous voyez que c'est une bourgeoise de haute... une classe un peu plus élevée que la simple petite bourgeoisie de Thérèse de Lisieux. Elle écrit des poésies comme Thérèse de Lisieux, avec une extrême facilité et d'intéressante poésie. Elle acquiert ainsi un bagage culturel vraiment remarquable. Hein? Et volontiers, elle met tout ça à la disposition de ceux qui ont eu moins de chance qu'elle. Elle prend part à des conférences de Saint-Vincent de Paul, encore la Saint-Vincent de Paul qui marque une sainte. Elle va à des réunions que les prêtres et des laïcs font à l'Union catholique italienne. Elle est douce et calme, mais pourtant, elle s'enflamme dans les discussions, elle s'implique dans des problèmes sociaux, puis elle reste du côté des pauvres. Elle veut défendre les pauvres. Elle accepte les invitations aux réceptions. D'accord, elle est de la haute société. Il faut qu'elle aille à des réceptions. Elle peut pas se soustraire à ça. Mais elle invente toutes sortes de petits stratagèmes pour faire ce qu'elle veut faire. Ainsi, avec une espèce de négligence étudiée, elle jette un châle élégant sur les décolletés des vêtements que sa mère a choisis pour elle. Et puis, pour pas entrer dans la salle de bal pour aller perdre son temps à danser, elle réunit quelques personnes intelligentes. Elle anime des conversations de salon. Puis elle les rend pleines d'entrain, puis agréable. Et au théâtre, elle intercale adroitement, savez-vous quoi, c'est assez surprenant, des feuillets, des prières, puis de l'imitation de Jésus-Christ dans le livre de l'opéra. Puis elle laisse son âme se perdre en Dieu en toute liberté. Faut le faire, aller à l'opéra et méditer l'imitation. C'est très spécial, très spécial. Et vous allez voir l'évolution de cette jeune fille qui va atteindre, à mon avis, à une sainteté semblable tout à fait à celle de Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa famille passe les vacances à Rufina, près d'un torrent du même nom, au milieu des oliviers, des oliveraies, quoi, des vignobles aussi, où elle possède une magnifique maison de campagne du 16e siècle, construite, dit-on, d'après un dessin de Michel-Ange, et déclarée d'ailleurs monument national. Alors, dans ce milieu plutôt princier, Thérèse Valsi mène une vie, disons, d'avant-garde sociale, quoi. Elle ne s'occupe pas seulement du personnel de service, des employés de la maison, avec qui elle prie chaque soir, ou de ses petits cousins, qu'elle fait jouer tout en formant un petit peu leur caractère. Elle s'intéresse aux problèmes, puis aux difficultés des familles les plus nécessiteuses du village. Elle visite les malades. Elle va même jusqu'à coudre des habits pour les pauvres. Et au sein de sa famille, tout le monde parle de sa bonté est devenue proverbiale. Thérèse Valsi-Pantellini, qui sera salésienne bientôt, se prive souvent de souper. Par une entente secrète avec une domestique, les mets qui lui sont destinés, là, finissent dans un panier spécial à la cuisine. Ça va lui permettre de la distribuer, cette nourriture. Thérèse se met d'accord aussi avec le gardien de la villa pour qu'il la réveille chaque matin, savez-vous à quelle heure? À 4 heures. Alors elle est vêtue simplement pour que personne ne la remarque. Puis elle se rend à l'église. Parce qu'il faut dire que les paysans s'habillaient très très simplement à cette époque, à la fin du siècle dernier. J'ai des photos de ma mère prises au début du siècle, c'est épouvantable, c'est des robes qui vont jusqu'à terre, c'est des chapeaux immenses, c'est des toilettes incroyables que les gens portaient comme ça dans la rue. Alors elle n'apportait pas ça, elle se rendait à l'église très simplement, puis elle peinait dans une pauvre maison quelque part pour y apporter un peu d'aide. C'est une sorte de révolution personnelle qu'elle accomplit, hein. C'est la seule qui puisse sauver. Ça entraîne d'ailleurs tout le personnel de service, hein. On arrive toujours au terme sauver, le salut, c'est-à-dire libérer les gens, les sortir d'eux-mêmes pour qu'ils se mettent à tendre la main aux autres, hein. Alors, le personnel de service, les employés, les domestiques se mettent à collaborer silencieusement pour que chaque jour, Thérèse trouve dans son panier bien d'autres déjeuners que le sien, bien d'autres repas. Elle voyage aussi. Elle se rend en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en France. Elle va même passer de longues périodes à Viareggio. Oh, Viareggio, c'est sur l'Adriatique, c'est une belle plage. J'y suis allé il y a un an. Magnifique, hein? Ou bien dans la vallée d'Aoste, qui est superbe. Puis elle fait des excursions dans les Dolomites. Oh, c'est superbe, ça aussi. Elle ressent le charme de la nature qui la conduit, là. J'aime beaucoup ça, la contemplation. Une contemplation toujours plus profonde. Puis elle écoute. Elle écoute les révélations que Dieu a gravées dans toute chose créée. Parce que Dieu nous parle à travers sa création. Vous pouvez faire ça chez vous sans voyager si vous êtes malade. Ouvrez la télévision au bon poste. Regardez les émissions scientifiques et regardez ce que la science nous révèle. C'est si grandiose. Une pensée revient à l'esprit de notre Thérèse Valsé avec insistance, surtout quand elle se sent attirée par la vie. Qu'est-ce que c'est cette pensée? Il faudrait qu'on ait tout ça dans notre cœur. Suivre Jésus jusqu'au bout. Se donner complètement à lui pour l'aimer et le faire aimer. Mais comment? Pour elle, Thérèse, quelle famille religieuse choisir? Alors pour découvrir puis mieux réaliser ce grand projet d'amour que Dieu a sur elle, elle prie davantage encore. Puis Dieu lui répond à travers les événements. Ainsi, à l'église de la Trinité des Monts à Rome, vous savez cette belle église de la Trinité avec cet immense escalier où les foules se rassemblent, elle rencontre Monseigneur Radini Tedeschi, qui devient son directeur spirituel. Pour son âme, elle ne pouvait trouver un guide plus sûr d'ailleurs, et plus compétent. C'était un excellent Monseigneur. Sa cousine, qui souvent l'accompagne à l'église, la voit sortir rayonnant du confessionnel en s'écriant que je suis heureuse. Mon fils sortait toujours comme ça du confessionnal. Il trouvait qu'il avait des ailes comme un oiseau. C'est ce qu'il disait. Chaque jour, Thérèse participe à la Sainte Messe. Tous les jours. Elle découvre la valeur de la méditation aussi, qui ouvre devant elle des horizons spirituels toujours plus vastes. Prendre un livre, lire un texte, méditer sur un texte de l'Évangile, méditer l'Évangile du jour. Une circonstance providentielle lui fait découvrir d'ailleurs la trace de Dieu dans sa vie. Son amitié pour Emma Mazera, qui lui confie un jour sa volonté de devenir fille de Marie Auxiliatrice, c'est-à-dire salésienne, de Don Bosco, on les appelle comme ça, fille de Marie Auxiliatrice, c'est le nom officiel, mais on les appelle toujours des Salésiennes. C'est comme la compagnie de Jésus, on dit les Jésuites. Alors, Emma Mazera commence sa préparation à la vie religieuse à la maison de la rue Marghera, où Thérèse accompagne une de ses petites cousines à l'école maternelle, et les deux amies se revoient souvent. Alors là, elle est très attirée par la vie des sœurs. Pourquoi? Parce que la vie de ces sœurs-là, c'est une vie qui est riche en joie, des joies simples. C'est une vie qui est nourrie par la prière. Cette vie des sœurs salésiennes est remplie d'un travail continuel au milieu des enfants puis des adolescents qui remplissent les cours de récréation. C'est comme ça chez les salésiennes. Et dans son cœur résonne fortement une voix résolue, « C'est ici que je te veux. » Et avec toute la fraîcheur de ses 20 ans, elle répond, « Oui. » Monseigneur Radini Tedeschi la tranquillise. Thérèse est appelée à être salésienne. Par le sacrement de la réconciliation, il a connu l'audace de son idéal. Il l'a confessé plusieurs fois. Il est convaincu qu'elle arrivera à se réaliser chez les sœurs de Don Bosco. Et dans l'amour, avec un grand A dans l'amour, il est question d'entraînement. Et Thérèse est déjà comme une athlète. Sa mère, depuis longtemps déjà, devinait que sa fille mène un style de vie mondaine seulement pour lui faire plaisir, qu'elle ne s'oriente pas vers la vie conjugale. Alors Italo, son frère, au contraire, reste stupéfait du non décidé de sa sœur à la demande de mariage qu'elle lui a officiellement adressée, pas n'importe qui, le prince Massimo Lancilotti. Alors Italo a un pressentiment. Il court chez Monseigneur Radini Tedeschi, qui le lui confirme. Thérèse veut devenir salésienne de Don Bosco et partir en mission. L'idéal missionnaire la séduit, c'est un rêve à la mesure de ses horizons illimités. Alors la réaction de son frère est rapide, il dit cela jamais, jamais, jamais. Si elle veut, elle peut entrer chez les dames du Sacré-Cœur, qui proviennent toutes de familles nobles. C'est une question de prestige. Et Italo y tient énormément. Mais les dames du Sacré-Cœur, aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont plus nobles là-dedans, ça a bien changé. Mais le projet de Thérèse est relégué à cause de la maladie, puis de la mort de leur mère, le 24 novembre 1899. Thérèse a 21 ans. Au moment de l'épreuve, la foi l'aide à ne pas perdre l'assurance que Dieu est Père. Retenez bien ça, que dans les grandes épreuves, il faut jamais oublier que Dieu est Père. Ne viens pas dire que Dieu a tué ma mère, Dieu a tué mon enfant, Dieu a tué... Non, Dieu ne tue pas. Dieu nous aime dans la douleur, et qu'un jour tout s'expliquera, même la douleur. Alors elle attend encore un peu après le départ de sa mère, puis elle écrit à son frère pour lui faire comprendre la beauté de son choix qui mûrit dans la prière. Elle qui possède tout, veut tout abandonner pour se mettre du côté des jeunes les plus pauvres et les plus délaissés. Elle veut se donner totalement à quelque chose qui en vaille vraiment la peine. Elle n'entre pas dans un institut religieux pour tourner le dos à sa famille, mais pour l'aimer, sa famille, davantage encore. Et à la fin, son frère Italo va parvenir à comprendre, qui va lui donner son approbation. Sa sœur agit sérieusement, d'ailleurs. Elle a pris résolument la route qui conduit tout droit au ciel. Il sait bien. Un prêtre salésien, Giovanni Marenco, qui était directeur général des Salésiennes, à qui Thérèse s'adresse, se rend compte que les fatigues quotidiennes des sœurs sont plutôt excessives pour cette jeune fille très belle, très riche, mais dont la santé est si délicate. Il lui fait remarquer tous les sacrifices qui l'attendent là-bas. Alors Thérèse répond que la vie des sœurs est exigeante parce que l'Évangile est exigeant. L'Évangile est exigeant. On en a fait souvent un peu un Évangile facile. L'Évangile est exigeant. Elle désire dépenser toute sa vie avec le cœur de Don Bosco pour le bien d'un grand nombre de jeunes, dans l'assurance que Dieu ne la laissera pas seule, qu'il l'aidera, il lui donnera sa force. Et après plusieurs rencontres, le prêtre dit au supérieur responsable, « Cette jeune fille a une vocation extraordinaire, acceptez-la. » Alors le 2 février 1901, à 22 ans, Thérèse entreprend sa marche vers le don total d'elle-même à Dieu. C'est à lui qu'elle confie la direction de toute sa vie. Elle découvre que Dieu lui donne une paix, oui, une paix qui dépasse toute attente humaine, qui la comble en plénitude. Puis elle écrit à sa jeune sœur Joséphine, « Je ne saurais te dire toute ma joie. » Le noviciat est sur le Janicule à Rome, sur le mont Janicule. C'est une maison humide, petite, très pauvre et laide, qui a été autrefois une résidence glorieuse. Mais Thérèse assure, « Notre maison est pauvre, c'est vrai, mais nous avons toutes... une grande confiance en l'aide de Dieu, puis un désir ardent d'apporter un peu de lumière, de charité à toutes les jeunes de ce vaste quartier. Parce qu'il lui demande comment elle a pu choisir un institut pauvre et non pas, par exemple, celui des religieuses qui l'ont élevé. Mais elle répond, avec la douceur, de qui fait l'effort de devenir celle qui ne possède plus rien, alors qu'elle était celle qui était comblée de tout. Mais alors, qu'aurais-je offert à Dieu, dit-elle. Alors, la novice veut donner tout, et donner vite, parce que la vie est courte et que le monde a grand besoin d'amour. Je continue donc avec cette femme fantastique qui est Thérèse Valsé, une Italienne du nord de l'Italie. Nous sommes à Rome. Elle a compris que la véritable pauvreté, c'est l'incapacité de se dépenser pour les autres. Hein? Les vrais pauvres parmi nous, ce sont les égoïstes. Les gens qui pensent rien qu'à eux, ça, ce sont les pauvres. Et qu'importe si la maison est froide, si la nourriture est vraiment pauvre, si la salle de musique est meublée de façon rudimentaire au couvent, non, elle ne souhaite rien de mieux. Et même, avec une grande aisance, Thérèse Valsé cède à ses compagnes la place la plus commode, les choses les plus belles. Elle ne calcule pas, elle aime, elle aime. Elle est comme la petite Thérèse Martin. Sa bonté est silencieuse et cachée. Elle ne dit jamais c'est assez. Elle arrive toujours. Et elle recommence toujours. La directrice, qui a confiance en ses capacités, lui demande de l'aider à tenir les comptes de la maison. Et Thérèse oublie sa passion pour la lecture, pour la culture. Et elle consacre de longues heures à un travail de comptabilité qui ne correspond vraiment pas à ses inclinations naturelles. Mais elle aime ce qu'elle fait. Dans la mesure même du sacrifice, dans la mesure de l'humilité que cela lui demande. Elle s'aperçoit bientôt que les dettes, un peu comme à Radio Marie, nous avons besoin d'aide, mais ce sont une lourde préoccupation pour sa directrice. Alors Thérèse hésite, mais rapidement, elle écrit à des gens qu'elle connaît. Elle en connaît beaucoup de gens riches, pour demander la charité d'une aide pécuniaire, même si elle éprouve une répugnance extrême à tendre la main. Si elle ne reçoit pas de réponse, elle va elle-même répliquer en personne auprès de ces gens riches. Elle se fait quêteuse. Mais l'effort qu'elle s'impose à elle-même est tellement pénible qu'une fois dans les escaliers de l'immeuble de Monseigneur Radini Tedeschi, elle est sur le point de s'évanouir. Elle se reprend et elle dit énergiquement à la novice qui l'accompagne, « Bon, allons, allons, andiamo. » Et tout en murmurant, cela aussi c'est pour toi, Seigneur. Alors elle sonne à la porte sans plus hésiter. Quelques jours plus tard, en rappelant ce fait, ben elle rit d'elle-même. Elle a le sens de l'humour, elle aime les répliques pleines d'esprit. C'est une Italienne, et elle sait sourire d'elle-même, de ses limites, de ses insuffisances. C'est une grande Italienne, sans prétention. Pas de snobisme. L'humour la garde à sa place. Ça lui donne le sens du relatif. Les novices se demandent si déjà maintenant elle n'est qu'humilité et silence, désir d'être oubliée, qu'est-ce qu'elle va devenir quand elle sera religieuse? Elles comprennent que ce sont pas de vaines paroles que de dire « Dieu fait des merveilles ». Oui, écoutez bien ça. « Dieu fait des merveilles dans les âmes qui lui sont totalement données, qui lui font totalement confiance et qui font de lui seul le centre de leur vie. » Alors, si leur compagne réussit ce que c'est possible pour elle aussi, il suffit donc d'essayer, à la limite, le noviciat devient extrêmement fervent. Et en plus des efforts personnels pour progresser, bien, les novices se préparent à être salésiennes par un stage pratique au patronage. Leur terrain d'essai, bien, ce sont 200 gamines sans éducation puis sans propreté. Des enfants de Rome très pauvres. Il faut les garder dans la joie, les amuser, les faire jouer sur scène, leur enseigner le catéchisme. Et Thérèse sait les prendre aussitôt du bon côté. Elle sait les comprendre. Et pour la cause de Dieu, bien, elle descend sur leur terrain avec une présence affectueuse. Les séduit, ça les gagne. Et d'instinct, mais ces jeunes, ces adolescentes, lui font confiance. Elles comprennent aussitôt que la novice veut leur bien. Elles comprennent que cette jeune sœur Thérèse n'attend pas qu'elle soit raisonnable pour les aimer, qu'elle sait leur donner ce dont le cœur a toujours besoin, quoi? La joie. C'est une des caractéristiques des salésiennes, ça. Joie dont nous sommes d'ailleurs tous assoiffés. Dès qu'on voit quelqu'un avec un beau sourire, on est porté vers cette personne. Don Bosco avait compris qu'avant même de rechercher le pain et la vérité, les jeunes recherchent la joie. Et si personne ne la leur offre, ils vont à la poursuite d'un plaisir qui finit par les intoxiquer. Et c'est comme ça que les jeunes s'en vont ailleurs, parce qu'ils trouvent nos assemblées ennuyantes. Les jeunes nous trouvent, nous, catholiques, ennuyants et tristes à mourir. Thérèse est animée des sentiments de son maître, Don Bosco. Elle vit la joie salésienne qui la fait aimer de ceux qui l'approchent. Et les enfants du patronage sont de plus en plus nombreux. Les locaux deviennent de plus en plus inadaptés. Alors, il faut déménager. Alors, on trouve un endroit. Alors, il faut déménager en riant, à la façon un peu de Saint-Philippe-Néri. Pas l'inauguration, mais une grande réception. Les enfants sont sur la scène, sont groupés. Et tout à coup, on entend une fanfare à l'extérieur. Alors les enfants quittent la scène, sautent, courent. Ils laissent là les dignitaires, puis elles reviennent enfin, par petits groupes, reprennent leur place. Et Sœur Thérèse, qui est restée sur scène, en toute tranquillité, reprend le chœur. Plus tard, une sœur lui demande ce qu'elle a éprouvé à ce moment-là. Et elle dit, « Je les aurais toutes giflées. » Mais la pensée que Don Bosco n'aurait pas agi de cette façon m'a fait passer tout mon énervement. Ce sont des pauvres filles qu'il faut comprendre et aider. Quand elles viennent au patronage, ajoute-t-elle, pour la première fois, elles nous en font voir de toutes les couleurs, c'est vrai. Elles nous arrachent le voile. Elles nous crachent même dessus. Mais si nous leur faisons confiance, elles changent peu à peu. Elles deviennent raisonnables. Cette jeune sœur s'est donnée à Dieu sans réserve. Elle renouvelle sans cesse ce don d'elle-même, chaque fois avec un amour plus intense. Elle ne cherche que le Seigneur. Elle ne travaille que pour lui. Vous direz que c'est trop beau, mais ça n'empêche pas que c'est le témoignage de tout le monde qui l'a connu. Je ne fais que vous redire ce qui est vrai. La marche vers la sainteté entreprise avec une telle énergie enlève à cette jeune novice de 22 ans toutes ses forces. Elle qui s'est libérée d'une fortune considérable pour devenir, on pourrait dire, une espèce de révolutionnaire de la charité. Mais elle veut maintenant, pour elle, quoi? Les travaux les plus humbles, les plus lourds. Elle veut toujours être prête à aider les autres. Et la joie devient de jour en jour plus rayonnante. Mais ses forces s'en vont. Les supérieurs, qui la voient fatiguée et pâle, lui imposent de penser un peu à elle-même. Ils l'envoient se reposer au Piémont, dans le Nord. À Nizza Monferrato, le 3 août 1903, à 24 ans, elle devient définitivement salésienne. Elle revient à Rome, heureuse, reprend son travail. Et près de Sœur Thérèse, on écrit qu'il souffle un air d'évangile. Que c'est beau! L'évangile vécu qui rayonne du cœur de cette sœur. C'est vécu dans tous ses détails. Ça finit par être contagieux. Des jeunes filles, nombreuses, expriment le désir de dépenser leur propre vie comme elles. Alors ils rentrent chez les sœurs. Le bien se propage en large cercle. Oui, les filles répondent à ce Dieu exigeant mais joyeux. Les aînés du patronage accueillent comme un trésor la catéchèse de Sœur Thérèse. Parce que sa foi passe dans le quotidien de la vie. Elle sent bien, ces petites filles, qu'avec elle, ce sont les confidences venant du fond du cœur. Avec elle, c'est la recherche de ce qui est vrai, de ce qui est beau. Et ses paroles sont comme des espèces de cloches, de carillons, quoi, qui invitent toujours à chanter le bonheur d'être membre de la famille de Dieu. Et les jeunes disent, « Sœur Thérèse se soucie de notre âme comme elle pense à la sienne. » Ouais, elle accepte, les petites filles, elles acceptent ses réprimandes, ses reproches. Car elles comprennent que Sœur Thérèse a toujours en vue leur bien. Tandis qu'elle se trouve à Diano d'Alba, par exemple, pour recouvrer la santé, l'une ou l'autre l'accompagne à l'église pour actionner le soufflet de l'orgue qu'elle doit étudier chaque jour, puis il y en a une petite qui s'amuse à exercer la patience de Sœur Thérèse, en arrêtant de souffler l'orgue. Puis la sœur Thérèse lui dit, « Tu es fatiguée, pas vrai? » Et puis, elle ne la dispute pas. Et quand la petite revient parmi ses compagnes, elle dit avec enthousiasme, « Elle est vraiment, comme vous dites, c'est une sainte. » Un jour, une enfant en colère lui crache au visage, puis s'enfuit. Sœur Thérèse demande aussitôt à une autre fille de courir après, là, et de rester près d'elle, puis de la calmer. Elle n'a qu'une crainte, c'est que cette petite fille ne revienne pas au patronage. Puis quand, quelques jours plus tard, elle la voit, cette même petite fille, devant elle, toute confuse, elle lui fait comprendre ce qu'elle a fait de mal, puis elle conclut, « Ma petite, ce n'est rien. Tout est passé. N'oublie pas, essaie d'être sage. » Et ça rappelle Jésus avec la femme adultère. Hein? « Ne pêche plus. Va, va. » Quant à elle, elle a une excuse toujours prête, mais sur 100 impolitesses de ses enfants à notre égard, il y en a bien 80 qu'elles font sans s'en rendre compte. Les gens du Trastevere, vous connaissez ça, le Trastevere, Trastevere en italien, de l'autre côté du Tibre, du fleuve, là, à Rome, qui ne savent pas le nom des Salésiennes, c'est des nouvelles sœurs, et qui les voient avec des enfants sales et mal élevés, ben, les habitants, là-bas, les gens du Trastevere, les surnomment les sœurs pouilleuses. Quand ils les rencontrent, ils se moquent d'elles. Elles, sœur Thérèse, de famille, pour ainsi dire, très élégante, elle sourit, puis continue sa route, presque heureuse d'être insultée. C'est un honneur, un mérite, que de rester avec ces petites pour elle. Ce sont bien celles que Jésus cherchait. Assiste-les volontiers, dit-elle, pour l'amour de Marie et pour gagner des mérites. Pour gagner des mérites, pour accroître l'amour. Et par son exemple, elle aide à comprendre que Dieu nous aime tels que nous sommes, pour nous faire devenir tels qu'il nous veut. Sœur Thérèse devine que bien des jeunes sont ce qu'elles sont, parce que jamais personne ne s'est soucié de leur existence et de leur avenir. Chez elles, alors, mûrit la certitude, là, comme chez Thérèse de l'Enfant Jésus, puis comme tant de saints, que seul l'amour peut donner un espoir et une dignité à ceux qui sont les plus démunis. C'est Don Bosco qui disait, il ne faut pas seulement aimer les jeunes, il faut leur faire sentir qu'ils sont aimés. Sœur Thérèse fait comprendre son affection par des actes. Elle est devenue d'ailleurs spécialiste dans le langage des faits. Elle fait toujours le bien, elle le fait aussitôt. Elle est infatigable, toujours du côté des pauvres. Elle affronte 1000 sacrifices pour que soit autorisée l'ouverture d'une école professionnelle. Alors l'ouverture de l'ouvroir puis de la buanderie permet aux sœurs de procurer un grand nombre de jeunes filles du quartier un travail qui est finalement assez bien rétribué. Dans une ambiance saine moralement. Et sœur Thérèse y trouve un champ de travail qui convient à son dévouement et ses efforts inépuisables. Mais elle exige avec fermeté que soient respectés l'horaire et le règlement. Un jour, la duchesse Torlonia, très connue en Italie, très riche, au lieu de rentrer à l'ouvroir où elle va souvent, elle ouvre par erreur la porte de la buanderie, où sœur Thérèse est en train de trier le linge sale. C'est un travail désagréable pour tous, elle se l'est réservé. La duchesse, plus tard, ne cessera de louer l'humilité de cette religieuse et sa sainteté. Elle connaît très bien sa famille, elle sait quel genre d'éducation elle a reçu. Mais sœur Thérèse est bien ennuyée de cette rencontre qui l'a privée du plaisir d'un travail fait en silence uniquement par amour. Elle n'a pas le goût du prestige. C'est le défaut de ceux qui veulent attirer à tout prix le regard des autres sur leur propre action. Elle choisit pour elle toujours le sacrifice, toujours égal des jours ordinaires. Elle a une joie à se tenir cachée. On ne peut la trouver qu'en plein travail. D'ailleurs, elle semble avoir toujours vécu dans un ouvroir. Elle semble avoir grandi dans une buanderie. Elle fait tout son possible pour créer une ambiance sereine, joyeuse, familiale, où l'on travaille volontiers, puis sœur Thérèse y dramatise des situations difficiles. C'est une femme d'une grande humilité, mais qui savait jouer le piano. On ne sait plus combien de jeunes reconnaissent que leur vie est construite, reconstruite par l'affection de sœur Thérèse Valsepantellini, chez qui elle voit l'expression humaine de l'infinie tendresse de Dieu. Mais cette sœur maigrit de jour en jour, elle perd ses forces, à cause d'un mal qu'on ne peut pas encore définir. Et on se rend compte finalement que c'est la phtisie. Alors de l'infirmerie, malgré sa souffrance, sœur Thérèse arrive à communiquer aux sœurs qui la visitent, communiquer une grande paix et surtout une sérénité profonde. Elle est toujours contente de tout. Sœur Thérèse ne se plaint jamais. Elle réussit même à manger un mets que, par erreur, on a saupoudré de sucre au lieu de sel. Un jour, sa directrice lui demande quel est son programme de vie. Tous les saints, tous ceux qui veulent en suivre la route en ont un. Et le sien à elle, à sœur Thérèse. Alors, sœur Thérèse hésite, ça la gêne. Mais elle ne peut esquiver cette question directe. Écoutez bien, elle lui confie à mi-voix, comme si elle craignait de lui révéler le pivot de sa charité. Sa réponse est si belle, je me suis proposé de toujours passer inaperçu. Ces paroles, on pourrait dire, c'est toute sa vie. Elle raconte en souriant, au début de ma maladie, je regrettais un peu de rester longtemps malade, mais le bon Dieu m'a aidé. Mais je suis prête à trois choses, mourir, ou rester longtemps au lit, ou même guérir. Une de ces trois choses m'arrivera bien. Que d'humour au dernier moment. On lui demande comment elle arrive à être si sereine. Elle dit, je suis dans la paix parce que quand je veux, je peux prier, je prie. Quand je ne peux pas le faire, je chante dans mon cœur. Je goûte par avance la joie du paradis. Alors les supérieurs décident de l'envoyer à Turin où elle pourra être mieux soignée. Elle accepte tranquillement cette disposition. Mais elle éprouve une grande douleur parce que ça se transforme finalement en un acte d'amour, en acte de foi. Et Turin, c'est dans le nord, près de la France. C'est Dieu qui le veut, je le veux aussi. À peine Sœur Thérèse est-elle partie que les enfants éclatent en sanglots. Elles disent « Personne ne pourra plus nous consoler comme elle ». Au cours du voyage, mais elle s'arrête à Rufina, là, quelques jours, pour saluer sa propre famille. Et elle leur dit au revoir, en paradis, arrivederci, in paradiso. Tout le monde est ému. À Turin, sa chambre est à côté de celle d'une sœur paralysée depuis 18 mois, qui est atteinte d'un mal qui la conduit lentement à la tombe. Et dans la nuit du 22 juillet 1907, survient un événement très étrange. La chambre de Sœur Thérèse est illuminée en plein jour. Cette lumière vient de Don Bosco qui apparaît. Il est jeune, il est souriant, il s'approche d'elle. Est-ce une illusion? Sœur Thérèse comprend, elle, que Don Bosco veut la guérir. Elle en éprouve une joie incoercible. Mais l'ardeur de sa charité est encore plus grande. Elle s'écrie aussitôt, en toute sincérité, « Don Bosco, Sœur Jeanine Lancy, est dans l'autre chambre. C'est elle qui doit guérir. » Alors Saint Bosco, Saint Jean Bosco la regarde avec une douceur infinie, lui sourit avec complaisance comme un père fier d'une de ses filles, qui lui ressemble beaucoup, puis il se rend dans la pièce voisine. Et on raconte, c'est sérieux, que Sœur Jeanine, Lenci, L-E-N-C-I, est réveillée. À peine Don Bosco l'a-t-il inondée de lumière qu'elle se sent guérie, elle saute de son lit et embrasse les sœurs accourues pour voir ce qui se passe. Est-ce un miracle? Est-ce une illusion? Est-ce un rêve? Il semble bien que ce soit vrai. Et Sœur Thérèse se recueille en une profonde prière. Elle dit, je suis sûre maintenant d'aller vite au paradis. Et à son frère qui lui demande des nouvelles, elle répond, Italo, Italo, une seule chose est nécessaire, sauver son âme. Que dans les souffrances de la vie, cette pensée t'encourage, mon cher frère. Une petite place au paradis arrange toutes choses. Et le 3 septembre 1907, comme en extase, elle répète clairement, « Paradis, 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 paradiso, paradiso. » Puis elle tressaille et elle crie, doucement, toute heureuse, « Marie auxiliatrice, Don Bosco, il m'appelle, je les vois, ou accompagnez-moi vers eux, vite, vite. » Et Sœur Thérèse Valsé-Pantellini, une femme qui a su devenir amour pour combler la faim d'un grand nombre de jeunes. Les saints passent pas inutilement parmi nous, hein? Dites-vous bien qu'ils passent pas inutilement parmi nous. Ils sont là pour qu'on les invoque et qu'on les imite. Ce sont des rayons qui viennent du cœur de Jésus. Le monde, peut-être, ne le sait pas. Mais les saints laissent un sillage dans l'histoire. On vénère des gens qui ne sont pas des saints d'un bout à l'autre du monde. Et on oublie les saints. Si vous allez à la messe aujourd'hui, la messe de Saint Grégoire le Grand, qui était grand préfet de Rome, président du Sénat, quand il a opté pour la vie religieuse, lui qui est devenu pape, on raconte dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens aujourd'hui. C'est Saint Paul qui raconte l'enseignement d'un compagnon. Puis il dit, notre compagnon bien-aimé, qui nous représente fidèlement comme ministre du Christ, il nous a décrit l'amour que vous vivez dans l'Esprit-Saint. Cette sœur Thérèse a vécu l'amour, dans l'Esprit-Saint. C'est ça la sainteté, c'est le bonheur. Si vous voulez en connaître davantage sur les Salésiennes, vous pouvez leur téléphoner, elles sont à Montréal, elles ont plusieurs maisons. Je vous donne un numéro, 352-352-0394. Elles sont à Montréal, rue de Marseille, 84-31 rue de Marseille. Allez les voir, vous allez voir des femmes joyeuses et intelligentes, des Québécoises et des Italiennes superbes. Pour acheter là-bas, un peu de frais, Les Saints de la Famille par Joseph Aubry, un très beau livre, où on parle justement de cette sainte et de bien d'autres. Vous pourrez vous procurer aussi sur les traces de Don Bosco, d'autres vies. Il y en a des saints, des gens merveilleux chez les Salésiennes et les Salésiens. N'hésitez pas. Demain, André Jarlan, aumônier de la JOC, missionnaire au Chili, assassiné en 1984. Et après-demain, Saint Jean-Baptiste, cousin de Jésus, un prédicateur courageux, décapité vers l'an 28, comme on sait. C'est pour mon anniversaire demain, puis l'anniversaire de mon baptême, vendredi. Je rends grâce à Dieu de m'avoir créé. Je le remercie. Remercions-le tous de nous avoir créés pour une vie éternelle, un bonheur éternel. Rendons grâce à Dieu de notre existence, de notre bonheur de vivre. Quelle joie, quelle joie.